la deuxième émission de la toute nouvelle web radio 8ème R, la radio qui inspire, je me devais d'inviter chez lui celui qui m'a boosté pour créer cette radio, celui qui m'a appris à tenir mon blog, le technicien de la radio, que dis-je, l'ingénieur, mon ami, mon frère, Stéphane Toth. Stéphane, bonjour.
Bonjour Franck.
Stéphane, me permettez-vous de vous vouvoyer ?
Oui, bien sûr.
Alors, mon petit doigt m'a dit que vous étiez un homme très occupé, le jour, la nuit, mais qu'entre les deux, vous preniez le temps de beaucoup lire, Stéphane. Alors, d'où vous vient cette passion pour la lecture ?
Ah, bah, c'est assez simple. C'est parce que je suis d'une époque avant Internet. Et pour rêver, pour trouver des mondes qui m'emportent, il fallait soit aller au cinéma, mais c'était un peu loin, soit il y avait des livres.
D'accord. Et donc, à partir de quel âge vous avez senti que ce goût pour la lecture arrivait ? Est-ce que déjà à 6 mois, déjà, vous saviez ça ?
Peut-être. En fait, j'ai appris à lire plutôt que la plupart d'entre nous, puisque je m'ennuyais seul à la maison et ma grande sœur allait à l'école et je voulais aussi aller à l'école. Et donc j'ai fait plusieurs grandes écoles de maternelle et CP en petits morceaux parce qu'on voyageait, avant de faire le vrai. Et j'ai commencé à lire vers 4 ans.
Ah oui, d'accord.
Alors, à savoir lire, je vais dire.
D'accord. Bon, et donc ensuite, par quelles étapes êtes-vous passé ?
Alors, les premiers livres que j'ai lus, c'était les livres avec images, les livres de l'école. Je me souviens d'un très vieux livre de lecture qui s'appelait Rémi et Capi. Voilà, qui je me souviens très bien des illustrations aussi. Je me souviens, par exemple, un lion dans une cage, et en dessous, c'était écrit à l'écriture avec les ronds et les déliés, à l'époque encore, le lion est dans la cage.
D'accord.
Donc ça, c'est mes premiers moments de lecture. Voilà. Et puis ensuite, rapidement, j'ai commencé à lire tout ce qui me tombait sous la main.
D'accord. Bon, et du coup, maintenant, on va parler de maintenant.
Oui.
Avez-vous un type de lecture particulier ? Ou est-ce que vous avez des lectures diverses ?
Non, j'ai des lectures diverses. Ce qui m'intéresse, c'est les univers, vraiment. Les univers à la fois l'imaginaire qui est décrit et aussi la manière dont c'est décrit. Et je suis toujours à la recherche de quelque chose que j'ai pas encore connu.
D'accord. Et alors donc, comment faites-vous ces recherches alors, du coup ?
C'est vraiment par de bouche à oreille, c'est instinctif, c'est je vois un morceau d'article, je vois quelque chose sur Twitter, une mention, et ça éveille mon attention, et je vais voir de quoi il s'agit, et c'est comme ça que je trouve.
Et donc vous utilisez Twitter, le moyen moderne.
Oui, oui, aujourd'hui, oui. Mais à l'origine, j'utilisais des moyens plus simple, c'est quand je trouvais un auteur qui me plaisait, je lisais tout ce qu'il écrivait. Et je lisais ensuite les auteurs que je trouvais chez le même éditeur.
En ce moment, que lisez-vous ?
En ce moment, tout de suite là, je ne lis rien. Ah si, je relis un livre de William Gibson, qui s'appelle Pattern Recognition, en anglais, ça se traduit pas très bien en français.
D'accord. Donc du coup, vous lisez aussi en anglais ?
Oui.
Et dans d'autres langues aussi ?
En espagnol aussi.
Ah, bah bravo.
Ça, c'était un grand plaisir de pouvoir découvrir les auteurs dans leur propre langue.
Oui, dans la langue d'origine, oui, ouais. J'imagine. Sans ce filtre du traducteur.
Oui.
Alors après, est-ce que vous avez un lieu particulier où vous aimez lire ?
Dans les transports. Dans l'avion, dans le train, dans le métro, ça c'est des endroits où j'aime beaucoup lire. Sinon, en ce moment c'est ça. Quand j'étais plus jeune, non, c'était dans un fauteuil simplement.
D'accord. Et alors, comment, j'avais envie de dire. Dans les transports en commun, c'est vrai qu'il n'y a pas 50 positions, parce que quand j'ai imaginé cette question,
oui.
J'imaginais que ça pouvait être allongé, ça pouvait être
Ouais, dans un hamac ou des choses comme
hamac,
ça.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, oui, alors.
Alors en fait, j'oublie ma position quand je lis. Je suis vraiment pris par le livre. Moi, ça peut être allongé dans un lit, ça peut être assis sur une chaise. Alors, pour moi, la position n'est pas très importante parce que j'oublie vraiment le monde réel quand je suis entré dans l'histoire.
Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller voir un film dont vous avez lu le livre avant ?
Oui.
Et ça vous fait quoi alors ?
Souvent, je suis... Il me manque la voix du narrateur dans les films.
Ah oui.
Oui. C'est le narrateur dit tellement de choses. Et il y a certains films où il y a effectivement un narrateur qui parle, mais d'abord, il n'a pas la même voix que dans ma tête.
Ouais.
Et il ne parle pas de la même façon. Donc c'est... Et il y a beaucoup de films où il n'existe tout simplement pas.
Oui.
Et du coup, le film devient, à mon avis, difficilement accessible si on n'a pas lu le livre.
D'accord. En effet. Ouais. En effet, je sais que parfois je me regrette de ne pas avoir fait le film moi-même pour pouvoir donner les images que j'avais dans la tête.
Hein, ouais.
Et cette narration qui me paraît importante aussi, oui.
Mais en fait, c'est dans les dessins animés. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai vu pour la première fois un film d'Astérix. Et ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'il n'avait pas la même voix.
Oui, c'est vrai. J'avais exactement le même souvenir. Oui, oui. Est-ce que vous avez donc en ce moment... est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué vraiment dans votre vie ?
Ah, il y en a beaucoup.
Ah, dites-moi déjà un, et puis après.
Alors, lequel ? En fait, un des livres qui m'a embarqué très loin, c'est le premier livre de William Gibson que j'ai lu. Puis c'est quelqu'un qui a inventé le terme cyberspace, et donc tout l'univers d'Internet, à l'époque où ça n'existait pas. Et moi, j'ai lu ce livre vraiment au tout début, à l'époque du tout début d'Internet, et ça m'a embarqué vraiment sur quelque chose où j'étais à la fois dans le présent et dans le futur, et c'était une impression très forte.
Est-ce que parfois, vous seriez tenté d'écrire vous-même ? Ou est-ce que vous écrivez vous-même ?
Non, je n'écris pas. C'est une question qu'on m'a posée assez souvent. Mais chaque fois que j'ai essayé, j'écris des petits bouts, des petites pastilles, des impressions, des choses comme ça. Mais en fait, il me manque une motivation pour écrire quelque chose. J'aurais besoin d'un but que j'ai pas. Voilà, j'ai tellement d'autres buts que celui-là, il n'est pas sorti encore.
Pas encore. Voilà. Peut-être qu'un jour.
Peut-être.
Quand vous arrêterez d'être occupé la nuit, ou peut-être que.
Voilà.
vous aurez du temps.
J'aurai du temps pour entendre la raison d'écrire.
Oui. C'est ça. Alors Stéphane, maintenant que nous avons dit tout ça, est-ce que vous pourriez me montrer un peu les livres que vous avez, qui ont l'air assez cachés quand même, mais disons plutôt bien rangés.
En fait, les livres en papier, maintenant, ils sont dans des caisses, dans des étagères au fond, parce que la plupart des livres que je lis aujourd'hui sont des livres numériques.
D'accord. Alors, c'est parti. Alors là, donc Stéphane, vous fouillez dans les livres.
Je fouille dans les vieilles caisses.
Dans les vieilles caisses plutôt pour trouver des livres.
Des livres que j'ai.
Que vous. Les livres que vous m'avez dit, c'était rare pour vous.
Voilà, j'ai des livres un peu rares, c'est-à-dire par exemple. J'ai découvert les livres d'Antonin Artaud, par exemple, il y a très longtemps. À l'époque, maintenant c'est plus trop rare, mais
oui,
à l'époque c'était assez rare.
Ouais.
De découvrir tout seul à 14 ans les Antonin Artaud. Voilà, j'ai fait une rencontre quand j'étais étudiant avec un anarchiste qui s'était enfui
enfin qui essayait de vivre en dehors de la société et qui avait fait quelques bêtises. Et il m'a laissé tout un tas de livres qu'il avait, et notamment j'ai les annales situationnistes, il m'avait beaucoup parlé de tout le mouvement situationniste, et notamment voilà, le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations,
que j'ai découvert.
De Raoul Van Eggen, d'accord. Qui est donc un des grands noms du situationnisme. C'est vraiment un monde très spécial que j'ai été très content de découvrir, ce monde des situationnistes. Ça, c'est un livre que j'ai trouvé très bon, puisque ça rappelle un peu ma propre histoire. La maison ne fait plus crédit. C'est l'histoire d'un homme qui est fâché avec ses parents. Ah. Et la maison ne fait plus crédit, c'est...
D'accord. Donc de Jean-Yves Sandré.
Voilà, Jean-Yves Sandré. D'accord. Ce livre qu'on m'a prêté, Petit crime japonais, de Kiyotaro Nishimura. Alors, c'est toutes les manières originales de tuer quelqu'un. Alors, c'est très très marrant. Je me souviens pas vraiment d'une histoire en particulier, mais chaque histoire a une manière originale de tuer quelqu'un. C'est très japonais.
Donc de Kiyotaro Nishimura.
Voilà. Dans mes... Alors qu'est-ce que j'ai ? J'ai un peu de science-fiction, évidemment.
Alors pourquoi évidemment ?
Ah, alors j'adore la science-fiction, puisque la lecture, c'est ce qui me fait voyager, et l'intérêt de la lecture, c'est qu'on peut voyager pas seulement ici, dans le présent et sur notre planète, mais on peut voyager partout, dans le temps, dans l'espace.
Oui.
Et il y a des grands écrivains de science-fiction qui font des voyages extraordinaires. Par exemple, j'ai passé, je me souviens plus très bien, mais dans mon souvenir, c'est presque tout l'été à lire, quand j'ai découvert la série des livres sur Dune de Frank Herbert. Et j'étais tellement pris dans cette histoire et pendant tellement longtemps que j'ai parfois ce sentiment flottant de ne plus être sûr de quel côté est la vraie réalité entre l'univers du livre et l'univers où je suis en train de vivre.
D'accord.
Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? On a quelques livres de... Quelques livres de vacances.
Comme ah oui.
Les livres de détectives. Bon, il y en a plein, des livres comme ça. Ici, c'est tout, je pense. On n'a pas grand-chose d'autre d'intéressant. Ouais, John le Carré, c'est toujours sympa pour les vacances. Par contre, on va se déplacer. Et on va aller voir. Ah, Joey Valdez, ça c'est un livre qui m'a vraiment fait voyager. Milagro en Miami. Ouais, c'est ça, je l'ai lu en espagnol. Et c'est un livre qui mélange la magie et la réalité. Ça raconte une espèce d'aventure de Cubains exilés à Miami, et où la magie noire, les symboles, etc. Et comme je ne maîtrisais pas très bien l'espagnol qu'elle utilise, j'étais vraiment dans un monde très très mal défini. Et ce décalage, je pense que c'était son intention de créer un monde où les repères sont un peu flous. Et comme j'avais en plus la difficulté de la langue, ça avait un effet encore plus fort.
Moi, je tiens vraiment à vous remercier de m'avoir boosté à nouveau pour créer cette radio, parce que ça fait quand même plusieurs années que...
Qu'on
en parle, je vais dire on, parce que c'est vrai que nous étions deux. Et donc, voilà, écoutez, Stéphane, je vous remercie beaucoup.
Avec grand plaisir, moi j'ai toujours plaisir à faire quelque chose ensemble.
Bon, merci. Et je suis impatient de voir vos visions des livres que vous m'avez montrés.
D'accord.
Stéphane, au revoir.
Au revoir.